politique.
Moi, ce que j'ai senti, c'est que les gens voulaient que le Parlement fonctionne, que les députés soient respectés, et c'est ce qu'on a réussi à faire.
Alors, pour nous, c'est sûr que c'est une entente qui a un goût de victoire.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'est le temps de parler un petit peu politique. Vous venez d'entendre Harold Lebel, le député du Parti québécois, et tout de suite après, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Ils se réjouissent tous les deux, donc, de la conclusion de cette négociation pour que leurs deux partis soient reconnus. Pour en discuter, Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant, stratège. Bonjour, Carl.
Allô, allô.
Alors, tout est bien qui finit bien, Paul.
Oui, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Bravo à la Coalition Avenir Québec d'avoir fait preuve d'ouverture, d'autant plus qu'elle dit qu'elle veut réformer le scrutin pour tenir compte davantage de la volonté des électeurs d'ajouter un élément de proportionnalité. Bien là, on a juste été conséquent avec cette volonté-là en donnant un statut au Parti québécois puis à Québec solidaire. Et ça a des conséquences concrètes de deux façons, parce que l'opposition péquiste et solidaire va pouvoir parler davantage à l'Assemblée nationale et ils vont pouvoir avoir assez d'argent pour engager des recherchistes pour dire quelque chose de pertinent, avoir le temps de bien étudier les projets de loi. J'ai dit bravo à la Coalition Avenir Québec, mais écoute, ça va pas, est pas pénalisé par ça. Au contraire, qui est pénalisé d'abord et avant tout? C'est les libéraux, parce que c'est eux l'opposition officielle, donc ils vont perdre un petit peu de visibilité. Et l'autre avantage pour la Coalition Avenir Québec, c'est que la période de questions risque d'être un petit peu plus désordonnée, parce qu'habituellement, quand l'opposition officielle peut aligner pas mal de questions, ben elle peut développer un plan de match. La première question mène à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, puis quand ils décident de concentrer leur tir sur un seul sujet, il y a une espèce d'effet là, massif, on se dit qu'il y a un sujet important qui embarrasse le gouvernement.
Mais ils vont être encore
alors que chacun peut. Oui, ils vont être capables,
Paul,
mais un peu moins, chacun va pouvoir aller dans sa direction.
Ben, ils vont avoir trois questions. La première question, c'est une question principale, trois complémentaires. La deuxième, c'est trois questions principales, deux complémentaires. L'autre, c'est trois aussi. Fait qu'ils vont être quand même capables, s'ils veulent le faire, ce que tu suggères, puis effectivement, souvent, c'est une bonne idée. Ils auront la possibilité de poser 10 questions d'affilée sur le même sujet s'ils veulent.
Ouais, mais au-delà de la stratégie, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Québécois puis pour la démocratie.
Mais c'est une bonne nouvelle, mais il reste que pour la CAQ, c'est divisé pour régner. Ce que je remarque là-dedans, c'est que ça devrait être automatique. Ça ne devrait pas être laissé au bon vouloir du parti au pouvoir. Je pense que les règles, et ça, à tous les paniers...
C'est automatique, Carl. C'est automatique. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas 12 députés ou 20%
des
votes.
C'est ça que je te dis. C'est que ça ne devrait pas être 12. C'est que ça devrait être bien plus bas que ça. Quand tu reçois presque l'appui d'un Québécois sur 5, tu devrais être reconnu en chambre. Et puis au fédéral, c'est la même chose. Puis en Ontario, ça devrait être la même chose. Mais regarde, là, le Parti libéral, qui n'est pas le statut officiel en Ontario, Doug Ford veut augmenter la limite pour les empêcher de gagner des partiels puis d'obtenir ce statut-là. Fait que c'est là qu'on est rendu.
Okay, tu trouves que le seuil de 12 députés ou de 20% des votes est trop élevé? Surtout dans un paysage politique... Paul y faisait référence, un paysage politique qui est beaucoup plus éclaté qu'auparavant. Alors qu'avant, avant c'était deux partis, maintenant c'est le multipartisme.
Et ça devient la norme, et ça devient la norme un peu partout au pays. Et donc, pour refléter cette réalité-là, pour bien représenter les gens, qu'on donne les moyens aux partis qui réussissent à faire élire des députés le droit de faire de la recherche, d'avoir des budgets, de pouvoir faire le travail pour lequel ils ont été élus.
Très bien. Parlons de la présidente de la Commission des droits de la personne, parce que ça risque d'être un des premiers dossiers auxquels seront confrontés justement les députés à Québec la semaine prochaine, Paul, rapidement, s'il te plaît.
C'est le début de la fin. En fait, les carottes sont cuites pour Tamara Termitus, qui était à la tête de la Commission des droits de la personne. Elle est sur le bord d'être destituée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs allégations d'abus d'autorité, de mauvaise gestion. Je cite les gens qui la critiquaient. Ils disaient que c'est carrément un derby de démolition sous sa gouverne, intimidation et attitude méprisante, atmosphère de suspicion et de terreur. Je te rappelle qu'il est à la tête de la Commission des droits de la personne qui étudie ce genre de plainte-là.
Ben oui,
Il y a déjà eu des rapports d'une vérificatrice externe, rapport de la protectrice du citoyen. Les rapports sont dans les mains du gouvernement. Il a ça, donc maintenant, il y a toutes les justifications pour la destituer. C'est pas une décision du gouvernement, ça doit être pris par l'Assemblée nationale parce qu'elle est nommée par l'Assemblée nationale, donc par tous les élus. Si c'est eux qui la nomment, Ce sont eux qui doivent la dégommer. Ça devrait se faire sans trop de problèmes parce que les libéraux l'avaient incité à démissionner et les péquistes voulaient s'en débarrasser. Idem pour la CAQ. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix à la lumière des rapports. Donc, je ne pense pas qu'elle va pouvoir faire un party de Noël en tant que patronne de la Commission des droits de la personne. On risque de la retrouver bientôt sur LinkedIn.
Alors, oui. Alors, le fameux rapport dont tu nous parles... Il va être déposé la semaine prochaine.
Oui. Et ça s'ajoute à d'autres rapports. Là.
Et ce qu'on me dit à Québec, moi, c'est que dès que le rapport va déposer, le gouvernement de la CAQ va déposer en même temps ou peu de temps après une motion pour obtenir l'appui des deux tiers qui permettrait à madame d'être limogée. Mm. Donc, ça devrait se faire la semaine prochaine. OK, allons à Ottawa. Parlons de cette loi spéciale pour forcer le retour au travail des employés de Postes Canada, Carl.
Oui, ce matin, la Chambre des communes a adopté la motion qui va permettre l'accélération de l'adoption de ce projet de loi spécial. Écoute, c'est assez intense comme motion là. On a suspendu toutes les règles en cours pour que ça soit adopté très rapidement. C'est comme si on imposait le baillon puis une allocation de temps en même temps, et ça va permettre au gouvernement de faire adopter ça. Probablement, on parle de la soirée, peut-être cette nuit ou plus tard. Le NPD va tenter de ralentir tout ça, mais bon, puisque les règles ont été suspendues, ils ont peu de moyens de le faire. Donc, d'une certaine manière, la façon de faire, d'enfoncer ce projet de loi-là dans la gorge des travailleurs, c'est beaucoup plus efficace du côté du Parti libéral que cela a été du côté de Stephen Harper en 2011, alors que ça a pris des jours et même des nuits de session pour la faire adopter. Mais là, ça devrait être adopté, là, on parle de cette nuit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Sénat se prépare. Eux ont adopté une motion pour siéger en fin de semaine. Ils vont faire de l'overtime.
Pauvre sénateur!
Non, mais garde, ils vont travailler samedi puis dimanche. Devraient adopter le projet de loi également, donc en fin de semaine. Et donc, on parle d'une sanction royale lundi ou mardi au plus tard pour que le projet de loi soit en vigueur. Réaction ce matin, les syndicats ont tenu une conférence de presse, c'est le cas des postiers, le Congrès du travail du Canada également était là, ils sont pas contents. D'ailleurs, présentement, là, il y a de l'occupation de bureaux de députés. On vise notamment des ministres, le ministre Morneau, le ministre Baines, la ministre McKenna, leurs bureaux sont occupés par les travailleurs des postes. Ils sont pas contents, mais ils se disent ouverts à négocier. On peut écouter la négociatrice des postiers, Nancy Beauchamp.
C'est lui, propriétaire de Postes Canada, de s'asseoir à la table de négociation puis de régler. Le syndicat est ouvert à des solutions, parce que ce qu'on veut, c'est des solutions pour régler nos problèmes. Donc, ils ont juste à venir s'asseoir, puis si nos solutions ne sont pas les bonnes, qu'ils en proposent, mais Postes Canada, présentement, ne propose pas de solution.
OK, mais enfin, ils ont possiblement jusqu'à mardi, en tout cas, très certainement jusqu'à lundi, pour essayer d'en arriver à une entente avant que la proclamation royale de la loi se fasse, là.
Oui, mais tu sais, dans le cas de Postes Canada, enfin, la direction, maintenant, ils ont le gros bout du bâton, là, ils n'ont plus besoin de se presser. Le gouvernement est en train de faire la job à leur place.
C'est sûr.
Donc, ils peuvent s'asseoir, attendre que ça se fasse. Et pour les travailleurs, bien évidemment, c'est problématique parce que, bon, c'est la deuxième fois, le deuxième conflit de travail où on leur enlève le moyen de pression qu'ils ont pour pouvoir négocier une entente. Puis dans le cas qui nous occupe, écoute, moi, je pense que la direction de Postes Canada, là, s'est traîné les pieds. Ça fait 11 mois que ça dure. Et pour les gens à la maison, la négociation ne se fait pas surtout sur les salaires. Il y a eu un rapprochement important au niveau des salaires. On est autour de 2% pour la direction, 2,9% pour le syndicat. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est au niveau des conditions de travail. Évidemment, l'industrie s'est transformée. On livre plus sans lettres, on livre sans colis. Et évidemment, ça change les conditions de travail des postiers. C'est ça qui est le nœud du problème.
OK, on s'arrête. Au retour, un député fédéral qui démissionne très mystérieusement. Et puis, Paul va nous parler de l'appui à la ligne rose. Un appui à la ligne rose. Hein, Paul, c'est bien de ça dont tu vas nous parler?
Un appui à la ligne rose, comme tu l'as dit deux fois.
Oui, c'est Philippe Schnob qui... Philippe Schnob, le président de la STM.
Ben
mais c'est pas une grosse nouvelle. Le gars, il dirige la société de transport. C'est sûr qu'il veut une ligne de métro. Fait que pourquoi c'est important, ça?
Ben, écoute, est-ce qu'on en parle après la pause ou maintenant?
<C'est>... Tu deviens de plus en plus à l'aise, Paul. J'aime ça. Mais pense à Chantal Rouleau, la ministre de la Métropole, responsable du transport, déléguée au transport. Je pense à elle. Puis au retour, on va parler d'elle. C'est bon, ça?
C'est bon.
OK, à tout de suite. Bon, ben Paul, est-ce que tu as eu l'occasion de réfléchir un petit peu?
Légèrement.
Alors, écoute...
mais de toute façon, réfléchir, mais...
Réfléchir, c'est ta nature profonde, je sais. Oui. Non, non, mais c'est parce que c'est un article de ton journal. C'est un article de Kathleen Lévesque, la formidable journaliste que j'ai côtoyée dans le temps, qui cite Chantal Rouleau, la ministre responsable de la métropole, déléguée au transport. Madame Rouleau qui dit que, oui, c'est vrai, on a promis un tramway, mais dans le fond, ça pourrait peut-être être le réseau... le REM qu'on pourrait prolonger jusque dans l'Est. Et donc, tu as d'un côté Philippe Schnobl, le président de la STM, qui dit « La ligne rose, c'est une bonne idée parce que notamment la ligne orange est complètement surchargée puis on se sent le dessous des bras par moment quand on est dans le métro tellement il y a du monde mais c'est ça pareil, mais moi je le prends, le métro. Hein. Tu le prends-tu, toi? Tu te promènes à vélo, toi?
Non, l'hiver, là, à moins qu'il fasse vraiment beau, je suis en métro, puis je peux en témoigner, la ligne orange, elle n'a jamais été aussi bondée. Puis comme le disait Philippe Schnobl, il y a des limites à l'ajout, à l'augmentation de la fréquence. À un moment donné, il ne peut pas avoir des métros partout, tout le temps. Ils vont se rentrer dedans, n'est-ce pas?
Dire sur une même ligne.
Oui, c'est ça, sur une même ligne, sur la ligne orange. Et le REM, ça ne va pas améliorer la situation. Au contraire, ça va l'aggraver. Il va avoir encore plus de voyageurs sur la ligne orange. Et lui, ce qu'il disait, c'est peut-être que la seule façon de régler ce problème-là, c'est d'avoir une nouvelle ligne de métro qui n'a pas de transfert à Berry-UQAM, une des deux stations les plus achalandées, je crois, avec McGill de mémoire.
Je comprends pas, là. Explique-moi. Là.
Mais c'est-à-dire que donc la ligne orange est déjà pleine. Avec le REM, il va y avoir des embranchements sur la ligne orange. Donc, au lieu d'alléger le trafic sur la ligne orange, il va y avoir encore plus de passagers. Donc, ce que tu veux, c'est qu'il y ait des gens qui prennent le transport en commun, mais qui ne soient pas sur la ligne orange. Donc, une ligne sans interconnexion avec Berry, qui a un arrêt sur la ligne orange. Et une des solutions, c'est une nouvelle ligne rose, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et je pense qu'il y a d'autres personnes, dont la CAQ, et là, t'en parlais, qui, eux, sont pas favorables à la ligne rose, mais qui réfléchissent à d'autres nouvelles formes de transport en commun, qui avec d'autres trajets, qui pourraient, selon eux, avoir le même objectif, c'est-à-dire d'alléger le trafic sur la ligne orange puis d'alléger le trafic sur les routes.
OK. Mais ça devient un peu mêlant, là. Est-ce qu'il y a moyen de faire cohabiter les engagements de la CAQ qui veulent prolonger vers l'Est le transport en commun, que ce soit un tramway ou que ce soit le REM qui se rende jusque dans l'Est? Eux autres, ils veulent mieux desservir l'Est. Alors, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a la ligne orange qui déborde. Y a-tu moyen, d'après toi, de donner un meilleur service aux gens de l'Est de Montréal qui le méritent bien et sans pour autant aller bourrer encore davantage la ligne orange?
Il y a moyen, mais écoute, comme tu l'as souligné, c'est le bordel. Tout le monde a sa petite solution, puis c'est pour ça qu'on pensait enfin avoir réglé le problème en ayant une planification pour l'ensemble du territoire de Montréal. Un groupe qui fait les plans avec une vision d'ensemble, au lieu que tout le monde arrive avec son plan écrit sur son bout de table qui est en fonction de ses intérêts.
Ça, c'est la RTM.
Ça, c'est la RTM, mais on attend encore son plan. Et donc, dans l'attente, c'est normal que tout le monde y aille de l'avant avec ses positions. C'est ce que fait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et c'est ce que fait aussi la CAQ. Mais on voit que les propositions de Mme Plante et de la CAQ, elles ne sont pas complémentaires. Elles sont très, très distinctes parce qu'on n'a pas de l'argent pour tout faire. Il va falloir choisir.
Ouais, la nature a horreur du vide. Hein? Alors, en l'absence d'un plan, tout le monde y va de sa solution puis tire la couverte de leur côté. Mais ça prend une intégration de cette réflexion-là plutôt que chacun de leur côté. Il faut vraiment amener ça ensemble.
Mais à ce moment-là, Paul, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a une part de leadership à exercer de la part de François Bonnardel, le ministre des Transports. Non, c'est, il me semble qu'il pourrait s'assurer que tout le monde s'assoit autour d'une même table puis qu'on essaie de se trouver une façon d'aligner tout ça, là, pour pas qu'on ait 3-4 projets qui se promènent puis qui cohabitent les uns avec les autres puis qu'on ait l'air d'une gang de peut-être.
Le leadership, moi, je pense que ça dépend. C'est quoi le leadership? Est-ce que ça veut dire d'imposer sa volonté?
Non, je ne parle pas d'imposer. Je parle pas d'imposer. Je parle de mettre autour de la table. Parce que la RTM, visiblement, le joue pas. La RTM, là, pour les auditeurs, l'Autorité régionale de transport métropolitain, c'est une nouvelle patente à gosse, ça, inventée dans les derniers mois, là, qui est un peu, qui est un dérivé de ce qui existait auparavant. Là. Alors, si la RTM joue pas ce rôle-là de leadership, quelqu'un d'autre doit l'exercer, puis c'est le politique, non?
Oui, ou la communauté métropolitaine de Montréal, c'est-à-dire Mme Plante avec Laval et avec Longueuil. C'est à la région de s'organiser elle-même.
Mais chacun ses projets.
Oui, Paul, c'est ça. Puis moi, ma crainte aussi, c'est pas juste des petits projets qui se font en un an, là. C'est des projets qui se planifient sur une décennie. C'est super long à faire les études, tout ça. Et s'il n'y a pas une concertation qui se fait rapidement, durant le mandat caquiste, on n'aura pas lancé de projet. On sera à peine dans les études, puis il n'y a rien qui va avancer. Je te rappelle que la ligne bleue, le métro, là, on était au milieu des années 80, on découpait déjà des rubans en disant « ça s'en vient, ça s'en vient ». Ça
même
fait
pas
30
commencé.
Ans qu'on use des ciseaux sur des rubans qui n'en vont nulle part. Là.
OK, tu as bien raison. Alors, Carl, parle-nous de Raj Grewal, donc ce député fédéral, libéral, donc d'un comté de la région de Toronto, qui annonce une démission surprise pour des raisons médicales.
Mais des raisons personnelles et médicales,
ouais.
C'est plutôt nébuleux.
Ouais.
Trudeau a émis une petite déclaration où il parle que le député fait face à des défis personnels importants. Mm. Alors tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Là, on n'est pas dans les grandes diffusions d'émotions du côté du premier ministre. Donc ça soulève beaucoup d'interrogations. Il faut aussi comprendre que Raj Grewal, dans son cas, il a été investi candidat du Parti libéral dans Brampton-Est le mois dernier. Alors c'est assez étonnant de le voir démissionner maintenant. Et aussi, il faut comprendre qu'une enquête du commissaire à l'éthique est en cours depuis le printemps dernier par rapport au voyage en Inde. Il aurait avantagé ses partenaires d'affaires lors de ce voyage-là. Donc, commissaire à l'éthique enquête, est-ce que c'est relié à cette enquête?
Paraît que non.
Il paraît que c'est
vraiment un vrai problème de santé. Mais la question qui se pose, c'est en libérant Brampton East, il libère un beau comté pour Jack Meade Singh, le chef du NPD, parce que c'est là qu'il était député au provincial dans le temps.
Exact.
Alors, plutôt que d'aller se présenter en Colombie-Britannique, est-ce que Jack Meade pourrait finalement aller se présenter là où il était député provincial puis avoir des meilleures chances de gagner? C'est ça la grande question, là.
Du côté du NPD, on se pose la question, on va regarder ça, analyser ça comme faut. Il faut dire qu'il y a quelques mois, Jack Meade Singh disait « I'm all in » dans Burnaby.
Dans Burnaby, en Colombie-Britannique. On verra bien. Carl Bélanger, merci.
Bientôt.
Paul Journet, merci. Bonne fin de semaine à vous
merci,
deux.
Merci, allons-y.
On revient après les nouvelles.